Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Alors en langage de code, on dit DDT, dessus de table. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Une émission proposée par Manuel Mariani. Qu'est-ce que vous mettez dans vos narines, Manu, là?
Ah bah, je n'ai arrêté de parler de mes secrets pour avoir une voix à la Barry White.
Vous prenez de la drogue avant l'émission?
Non, c'est pas de la drogue, hein, c'est de l'eucalyptus.
Ah bon?
C'est pour déboucher mes chakras.
Ah là là, bon, comment ça va, Manu?
Ça va très bien, et vous, Philippe?
Bien, on prépare les fêtes de fin d'année. À travers une enquête qui est sortie par le magazine 60 millions de consommateurs, hein, ça veut dire que c'est le début des fêtes de fin d'année, qui a réalisé une enquête sur les meilleurs foie gras de France. Ça nous a donné l'envie et l'idée d'en parler du foie gras aujourd'hui, sujet polémique s'il en faut.
Absolument, absolument. D'autant qu'il y a des études aussi qui sont sorties, hein, qui montrent que sur les tables de fête, hein, chez les habitants de notre beau pays, le foie gras arrive en numéro un sur les incontournables des plats de fête, hein, devant la bûche, devant le saumon, devant tout ça. Donc c'est vrai
vraiment
que
un plat de saison.
C'est l'incontournable.
Ouais. Mais après, ils le rangent parce qu'ils n'en mangent pas toute l'année, hein, le foie gras.
Alors oui, alors que c'est dommage d'ailleurs, puisque le foie gras, c'est pas bon qu'en hiver. Hein. Le foie gras, on peut en manger tout le temps.
Mais à qui sont nos invités, Manu?
Ah ben, on a fait venir la dream team du foie gras. On a déjà en amont, hein, le boucher, les jumeaux, Karim Loumi. Bonjour Karim.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Ben, ça va pas mal, Karim. Et puis nous avons
alias Don Foie Gratto.
Don Foie Gratto, oui, puisque son foie gras vient d'Outre-Pyrénées, comme on dit, hein, d'Espagne. Il nous expliquera un petit peu, et c'est du foie gras d'oie d'ailleurs. Et puis pour la partie plus canard, on a Julien Durand, alias Maître Foie Gras.
Bonjour à tous.
On va lui faire un jingle. Bonjour, à Maître Foie Gras. Oui. Maître Foie Gras, Julien Durand, chef à domicile, et puis dealer de foie gras. Hein.
Voilà. À noter que tous les deux, vous faites du foie gras halal. Hein.
Absolument.
C'est ça qu'il faut préciser.
Ouais.
Et puis Patrick Soulaï qui est avec nous. Hola Patrick.
Hola Philippe, hola tout le monde.
Et qui n'a jamais mangé, lui, de foie gras.
Non.
Mais pourquoi vous n'avez jamais mangé de foie gras, vous?
Bah parce que je crois que comme il est très fit, le fait qu'il y ait gras dedans, déjà, à mon avis, ça disqualifie la denrée pour lui.
Alors ça, très fit, ça, c'est ça, je pense que Manu cherche un truc.
Il attend son chèque.
Manu cherche un truc.
Non, c'est parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu tout. Mais...
Ok. Ma mère écoute, Manu.
Oh, pardon. Madame Soulaï, si tu nous écoutes.
Yes. Bah non, en fait, c'est juste, c'est pas dans les mœurs de la famille, quoi. On mange pas de, y a pas de foie gras à table. Et puis moi, c'est pas quelque chose qui me.
C'est pas votre truc.
Ouais, c'est pas mon truc.
Bon.
C'est pas mon truc. Et puis en plus, j'ai entendu des choses sur le foie gras. Faites du mal aux animaux, c'est ce que j'ai entendu.
On va en parler justement ce matin, parce que c'est un des sujets qui revient, puisque tous les ans, on parle du foie gras, et sur le côté halal ou pas halal. Hein,
absolument, oui. Ouais. Et puis la maltraitance des animaux est un sujet à la mode aussi, hein, bon, bien au-delà du sujet du halal et de la communauté musulmane.
Bien. Quelle est l'origine du foie gras, Manu?
Alors, le foie gras, ça vient de très très loin, Philippe. À l'origine, c'est en... Alors, comment dire? Les oies qui se gavent, ça vient d'Égypte, hein, donc c'est très ancien, et donc les Égyptiens donnaient des figues aux oies pour les nourrir, et il se trouve que les oies, quand on leur donne des figues, c'est comme une drogue, et elles en mangent. Et un petit peu d'ailleurs, Karim nous racontera comment ça se passe de l'autre côté des Pyrénées, hein, en Espagne, Don Foie Gratto, il va nous expliquer ça. Mais c'est les canards ou les oies, on va dire les palmipèdes, quand vous leur donnez des figues, c'est comme une drogue. Plus vous leur en donnez, plus ils en mangent. Et tant que vous leur en donnez, ils en mangent.
Alors comment les Égyptiens se sont rendus compte de l'aspect et des incidences sur le foie?
Alors au départ, les Égyptiens faisaient ça pour avoir une viande riche. Mais c'est vrai que les abats n'étaient pas forcément trop consommés. Et c'est beaucoup plus tard, au moment des Romains. Là, c'est les populations juives qui ont commencé à cuisiner, à utiliser la graisse de canard et à cuisiner le foie. Parce que les juifs n'ayant pas le droit à toutes les matières grasses à l'époque, ils se sont servis de la graisse de ces canards ou de ces oies gavées pour cuisiner. Et ils ont commencé à cuisiner le foie aussi, à le faire confire et à faire du foie gras. Alors là, on est loin du mi-cuit d'aujourd'hui ou du foie gras cru poêlé, mais on commence petit à petit. Hein, d'abord chez les Égyptiens, puis après chez les Juifs au moment de l'Empire romain, le foie gras commence à se démocratiser, mais à se répandre un petit peu.
Alors, et d'où vient cette idée qu'aujourd'hui c'est une spécialité française ?
Ah, alors ça c'est encore autre chose. Si vous voulez, qui a théorisé la façon de gaver, la façon de faire du foie, la façon de cuisiner le foie gras, c'est effectivement les Français. Mais bon, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont nées ailleurs et qui ont été récupérées en France. Hein, je veux dire, c'est comme la pomme de terre ou l'avocat. Aujourd'hui, les gens pensent que le gratin dauphinois et l'avocat sont des trucs ancestralement français, alors que ça vient d'ailleurs. Vous voyez, mais effectivement, en France, comme on est plutôt pas mauvais en cuisine, on a l'habitude souvent de s'accaparer des choses et puis d'en faire des trucs peut-être un peu meilleurs, je sais pas.
Julien Durand, le foie gras, vous, c'est votre passion, en fait.
Ah, je suis tombé dedans, presque.
C'est comme vous êtes tombé dedans quand ?
Bah, en voyant mes grands-mères le préparer. Et je peux vous assurer que les méthodes ne sont plus les mêmes, mais ouais, c'était cuit la veille au soir, ça trempait dans le torchon, ça me donnait des envies, des odeurs, et plus il vieillissait, meilleur il était, et c'était un vrai plaisir de dévenir ça avec mes deux mamies.
T'es de quelle région, en fait ?
Moi ? Ouais. Moi, je suis de la banlieue parisienne, 100%.
Ouais, parce que
j'avais jamais une grand-mère du sud de la France.
C'est pour ça, oui.
Et mes deux grands-parents sont méditerranéens de l'autre côté de la Méditerranée, donc on est de Tunisie et on est pieds noirs de Tunisie, en fait.
D'accord. Voilà. Parce que donc, c'est plus du Gers, hein,
C'est plus du Gers, mais nous, on était des épicuriens. Et en fait, j'ai une famille de bouffe, en fait. Et on était dans la bouffe. Donc, quelle qu'elle soit, du nord, du sud, de l'ouest, de ce que vous voulez, du Maghreb surtout, on était là-dedans. Donc, ça faisait partie des mœurs, en fait. C'était la période pour dévenner. On apprenait à dévenner avec les cousins, les cousines. Et puis, on essayait de rouler. Et puis, on mangeait ce super foie gras. Et de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier et j'en suis fier parce que je reprends ce flambeau et j'ai essayé de le redonner à mes deux petits-enfants aussi.
Oui, alors Julien je parle avec ses mots de chef, hein. Il parle de dévenner et de rouler le foie gras. Alors ça ne se fume pas, hein, quand vous parlez de rouler le foie gras, non, on ne le fume pas. Non. Enfin, on peut faire du foie gras fumé, hein, ça c'est autre chose. Ouais. Mais alors dévenner, c'est parce que il y a une grosse veine à l'intérieur du foie, c'est même une artère d'ailleurs, hein, à l'intérieur des foie gras qu'on enlève. On parle de dévener, d'énerver ou évener. Hein, il y a plusieurs termes pour ça, et ça il faut l'enlever avant. Alors ça ne change rien au goût, hein, ça ne change absolument rien au goût, mais c'est pas très agréable.
C'est pas amer, non ? Il y a une question d'amertume.
Sauf si vous voyez que la veine, sauf si vous voyez que la veine est rouge, c'est qu'il reste du sang dedans. Mais le sang n'a pas un goût forcément amer.
Sur la coupe aussi, Manu, je pense que sur la coupe, ça ne se voit pas. Et en fait, le lobe se divise en deux. Il y a une grosse partie et une petite partie. Et quand votre foie il est à température presque ambiante, il se ôte assez facilement. Et c'est un plus de les enlever. C'est un nerf qu'on doit ôter, comme on ôterait le nerf du magret de canard ou autre.
Voilà. Sachant qu'on peut acheter le foie gras déjà dénervé, moi c'est ce que je recommande pour ceux qui ne savent pas le faire. Et puis par contre, si vous faites du foie gras poêlé, vous le coupez en tranches, la veine elle se rétracte toute seule, vous n'avez pas besoin de l'enlever, hein, parce que vous le coupez de façon perpendiculaire à la veine, donc elle va se rétracter, elle va fondre, et donc quand vous faites du foie gras poêlé, il n'y a pas besoin de le dévenner. Et puis alors quand Julien parle, parce que j'essaye de vulgariser les termes techniques du chef, quand il parle de rouler le foie gras, c'est parce qu'il parlait effectivement du foie gras au torchon.
Oui.
Effectivement, avant on roulait les foies dans un torchon et on faisait pocher le foie gras dans un bouillon ou dans un fond, et donc c'est ce qu'on appelle le foie gras au torchon, et donc là Julien peut peut-être nous en dire un peu plus. C'est pour ça qu'on parle de rouler le foie gras.
Voilà, on amenait un choc thermique, en fait. Et à l'époque, ils mettaient ça dans une marmite, comme il a dit, de bouillon de volaille qu'on faisait aussi nous-mêmes avec nos carcasses et tout. Hein. Quand je vous parle de ça, c'était la vraie mamie qui cuisinait, comme on peut voir dans les dessins animés. Hein. C'est typiquement, mais on est là-dedans. Et elle montait à température très élevée et elle mettait couvercle avec le torchon à hauteur, avec pour mettre en immersion dans l'eau, et elle laissait reposer toute la nuit. Et nous, maintenant, notre génération à nous, on fait l'inverse, en fait. On amène une cuisson lente. On a complètement, je trouve, changé la diagonale,
la façon
de faire. Ouais. Ma mamie, elle le cuisait fortement, très fort, donc elle faisait porter à ébullition ce bouillon, elle plongeait ses foie gras dans le torchon, elle les reposait toute la nuit, le matin on se réveillait, on ôtait le torchon, on les re-embellissait un petit peu, et puis on les laissait durcir tranquillement dans le frigo. Et moi, je fais maintenant l'inverse. Bon, maintenant on est équipé avec des thermoplongeurs et tous ces trucs-là, mais nous on le cuit à une température relativement basse, donc à partir de 63 degrés moi.
Alors, ce qu'il faut expliquer, Julien, c'est que vous êtes converti, hein, vous êtes converti à l'islam, et donc.
Oui, Dieu merci.
Oui, non, mais je dis ça parce que longtemps manger du foie gras, c'était plus une option pour vous, vous avez contourné la chose parce que vous dites, je vais en faire moi du foie gras.
Moi, je contourne tout ce qui était possible et imaginable à contourner, que ce soit le bourguignon, la blanquette et notamment le foie gras en effet, parce qu'à l'époque, ma grand-mère, bon, on était peut-être. On pensait pas à tout ça comme maintenant, on pensait à tous ces trucs-là maintenant. Mais c'est vrai que c'était un soupçon comme Maïté à la télé, mais c'était plus
des soupçons de sauterne.
C'était plus des soupçons, pas à son âme, mais c'était des bouteilles entières, quoi. C'était la folie. En fait, je pensais que je prenais un morceau de foie gras et me calmer la journée avec, quoi.
Donc pour un lobe de foie gras, il vous faut une bouteille d'Armagnac.
Ah, c'était génial, c'était vraiment mythique. Et puis il fallait voir le truc.
Vous pouvez rajouter une bouteille de Porto si vous voulez que ce soit un peu plus sucré.
C'est ça, Porto, Cognac, Armagnac, Madère. Et plus c'était vieux, plus c'était mieux. Et vas-y Juju quoi, et c'était la folie pure et dure. Et c'est vrai que bon bah après on a évolué, on s'est converti à...
Enfin vas-y Juju, c'était après hein.
Ouais non, c'était chaud. Mais c'est vrai que ça avait ce goût, et donc moi mon but c'était de retrouver cet équivalent.
Voilà.
Et honnêtement, j'en suis pas loin je pense. Donc on a pallié avec différentes méthodes qu'on pourra peut-être dire durant cette émission.
C'est-à-dire en fait comment vous faites
Le nature, il a pas forcément besoin d'avoir un additif avec de l'alcool, donc on fait un nature simple, sel, poivre, piment d'Espelette, parce que j'adore aussi le piment d'Espelette et j'adore ce coin de région de la France. Mais voilà, et pour les autres on met des inserts, donc avec cette confiture qui donne ce jus naturel, on remplace cet alcool qu'on pouvait mettre dedans en fait, donc que ça soit de la figue, une confiture d'oignon, je fais même des trucs un peu plus exotiques comme de la mangue, comme du litchi, voilà, ça parle plus à Patrick. Et tous ces trucs-là font que, en fait, on n'a pas forcément besoin. Et le fait de le cuire, je pense, aussi différemment, la graisse pas et, en fait, il s'imbibe doucement de cette cuisson-là. Donc,
Si on fait un sirop un peu liquide, un peu léger aussi, avec du vinaigre, avec un vinaigre balsamique de bonne qualité, ça donne un peu le goût de la marinade au madère. Avec le vinaigre balsamique, on peut avoir un goût approchant celui du madère.
Alors après, attention, il y a d'autres divergences sur le vinaigre et tous ces trucs-là. On peut en trouver aussi à l'al maintenant. Du bon vinaigre
à ce moment-là on mange plus de pain non plus parce que la levure fait un peu de l'alcool quand elle agit.
Je reprends le flambeau de mère en fille et enfin de grand-mère maman-mère et voilà. Et
voilà, mais juste vous faites aujourd'hui un foie gras
familial. Moi voilà. C'est le truc c'est du canard que je fais moi, à la différence de notre frère qui fait plus de l'oie. Moi c'est vraiment du canard, c'est le foie que j'ai connu. Et c'est le foie que j'ai envie de vous faire le plus découvrir dans mon périmètre. Donc moi, je suis sur Alfortville.
Karim, vous, ça commence par un article de presse, hein, votre rencontre avec le foie gras. Article de presse.
Ouais, en fait, nous, on
qui parle du meilleur foie gras du monde.
C'est ça. En fait, on vendait du foie gras pendant 2 ans. Et ensuite, il y a eu un petit souci, c'est qu'il y avait une divergence, en fait. Est-ce que le foie gras, c'est halal ou pas?
Enfin, c'était pas un petit souci, c'était un débat.
Un gros débat.
Il y a eu un gros débat quand même.
Donc AVS, pour eux, ça pouvait pas être halal, etc. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour éviter tout soupçon, on a arrêté d'en vendre. On vendait plus de foie gras gavé. Et en fait, avec le temps, j'ai regardé sur internet, il y a un mec qui fait du foie gras d'oie non gavé. Donc c'est éthique, etc. Il est en Espagne. Et ils vont ça à Barack Obama, à la Maison Blanche. Enfin bref, c'est un bordel le truc. Et je lui envoie des mails, j'essaye d'appeler, etc. J'arrive pas à trouver une solution avec ces éleveurs-là.
Vous présentez, vous dites voilà, je suis boucher au Lila à Paris. j'ai vu que vous fournissiez la Maison Blanche. J'aimerais bien que ça vienne au Lila.
Non mais c'était mon rêve de travailler avec lui.
Mais c'est pas crédible.
Moi je suis au métro Maison Blanche dans le 13e. Est-ce que vous pouvez me fournir?
J'ai même pensé à y aller en fait. J'ai même pensé à y aller, prendre l'avion, y aller, mais il y avait pas d'adresse. Le mec, on sait rien de lui en fait. Et on avait fait un reportage pour une chaîne de télévision, je crois que c'est pour Dubaï, une chaîne de Moyen-Orient. On est passé à la télévision égyptienne, tunisienne aussi. C'était au moment de l'Aïd. Et c'était une femme, une journaliste qui s'appelle Nadine, qui a fait le reportage pour nous. Elle nous a dit, Karim, tu sais, j'ai fait un reportage sur un mec qui fait du foie gras d'oie non gavé. J'ai dit, mais attends, ça fait des mois, voire je crois un an et demi que j'essaye de le joindre, j'arrive pas. Il m'a donné ses coordonnées. Je suis parti le voir genre quelques semaines après. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble pour faire du foie d'oie non gavé, justement. Du coup, je vendais plus de foie gras gavé. De toute façon, j'avais arrêté. Ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas vendu parce que pour éviter le doute. Et le produit, il est exceptionnel parce qu'il y a vraiment une histoire, une richesse. Et c'est un vrai patrimoine sur ce
produit-là. Non, mais vous racontez ça rapidement, mais le gars, quand il vous a vu arriver, vous, encore une fois, un petit boucher français, en disant, bah, je voudrais vendre votre foie gras que vous vendez qu'au plus grand de ce monde.
Bah, il
a fallu
pas
négocier,
contre.
Non?
Alors, il était pas contre, surtout, le problème qu'on avait, c'est que lui, il faisait pas de halal. Du coup, il fallait vraiment que je, en fait, c'était un peu plus compliqué que ça, parce que il fallait que je ramène mon sacrificateur avec moi, il fallait qu'on investisse sur un abattoir, que Philippe a vu avec
oui,
nous.
Une chaîne de production.
Il une a chaîne de production. Fait, ouais. Et du coup, on a mis l'abattage ensemble et tout le réseau. Et en plus, ce qu'il me disait l'éleveur, il me disait, écoute, Karim, le foie, quand c'est abattu avec l'électronarthrose, électrocuté, le foie, il est moins bon parce qu'il est chaud. Et vu que c'est halal, il n'y a pas d'électronarthrose, le foie, tu verras, il aura un meilleur goût. Mmh. Du coup, on a fait ça, on a commencé. En plus, ils ont accepté. On leur a dit, on va prendre, je crois, une quarantaine de bocaux, quoi, quelque chose comme ça. Ils ont dit bon d'accord, quoi, un petit client, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, on représente plus de 80% de son chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on a carrément l'exclusivité mondiale en halal. Voilà. Et c'est un très, très, très bon produit. Et là, justement, c'est la semaine du foie gras. Parce que j'ai passé 5 jours chez lui, justement, à mettre en
à
place.
À courir après les oies.
Oui, à faire du sac à doigts. Non, franchement, c'était chouette. Et là, j'ai fait un reportage avec des journalistes sur ce foie d'oie d'Angavé. Et c'était super sympa. Et là, on les voyait manger des grosses quantités de gland. En fait, le gland, c'est vraiment la source qui va donner un foie gras. Gros, naturellement, et c'est en gros, si vous connaissez pas, c'est la bellotin. Et donc, on a du foie d'oie de
oui,
bellotin.
De l'arbre du chêne.
Du chêne vert, ouais. Tout à fait. Et ça, que chêne, il a plus de 400 ans. C'est vraiment une histoire, quoi. C'est sympa. Très, très sympa.
Bon, on va raconter cette histoire du foie gras. Si vous voulez réagir, hein, justement, que vous soyez amateur de foie gras ou pas amateur de foie gras, vous pouvez rejoindre l'émission 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Ouais. Voilà, Dessus de table, on parle de foie gras ce matin, Manu.
Absolument, Philippe, hein, on parle de foie gras. Excusez-moi. Oui, on parle de foie gras avec nos invités Karim Loumi, des jumeaux, l'un des deux jumeaux d'ailleurs. On salue Slim d'ailleurs, qui est au turbin pendant que Karim boit le café avec nous. Et puis Julien Durand, maître foie gras, alias maître foie gras, chef à domicile et fabricant de foie gras artisanal. Voilà.
Et Patrick Soulaï qui est avec nous.
Ah oui, pardon.
Également.
Non, mais c'est...
Non, il a l'habitude.
Oui, j'ai compris. C'est pour ça, il était sympa au début.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Manu n'est qu'un ventre, Patrick, je l'expliquerai. Tiens, alors, quelles sont les différentes catégories de foie gras qu'on peut trouver, Manu?
Alors,
dans le cru, déjà.
Dans le cru, oui, dans les foie gras crus, hein, quand vous allez l'acheter. Si vous le faites vous-même ou si vous voulez faire du foie gras poêlé, que ce soit pour l'oie ou le canard, c'est la même chose. Il y a 3 catégories, du meilleur au moins bon, on va dire. Hein, il y a le extra. Donc le extra, c'est le top du top. Il y a le premier choix, qui est un foie gras de bonne qualité. Et il y a le tout venant. Le tout venant, c'est des foie gras. Quand vous les voyez, ils sont un peu plus petits, un peu gris. Et puis surtout, ils sont bon marché, mais c'est une fausse économie. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, les deux premières catégories, elles sont de bonne qualité. C'est très bien pour faire votre foie gras maison, pour faire du foie gras poêlé. Il aura un très bon goût. Il tiendra bien à la cuisson. Alors, par contre, le tout venant, c'est un foie gras qui est d'assez mauvaise qualité. Il peut donner l'impression de faire une économie à l'achat, parce que c'est vrai qu'il y a un écart de prix de 30 à 40%, ce qui est pas rien sur du foie gras.
C'est énorme, ouais.
Simplement, quand vous allez le cuire, il va rendre tellement d'eau, tellement de graisse, ce qui va rester, ça va être sans goût. Enfin, il y aura pas de goût, ce sera tout moche. Et du coup, avec la perte de poids, la perte de goût, etc., vous faites une mauvaise opération financière.
Ça sera du foie gras, voilà. Et du gras foie.
Ouais, oui, c'est ça, c'est du gras foie. Vous aurez plus du pâté de foie, un mauvais pâté de foie qu'un beau foie gras. Donc, oubliez le tout venant. Vous achetez selon vos moyens du extra ou du premier choix. Et si vous le cuisez correctement, vous n'allez pas avoir trop de pertes et vous aurez un bon rapport qualité, quantité et prix avec, avec ces deux types de foie gras.
Et l'aspect, donc, à quoi est-ce qu'on doit faire attention, Manu?
Alors, déjà au niveau de la couleur, le foie, il faut qu'il ait une teinte entre le beige et le caramel. Hein, il ne doit pas être trop clair ni trop gris. Ensuite, il doit être bien bombé et bien lisse. Hein, il faut qu'il ait des belles formes. Hein, il faut qu'il soit un peu à la Botero, le foie gras. Vous voyez, hein, il faut qu'il soit voluptueux. Et puis quand on appuie sur le foie avec le doigt, vous le pouvez, parce qu'en général ils sont sous vide, on voit au travers, hein, donc vous voyez la couleur. Et puis vous pouvez enfoncer votre doigt dessus. Il doit être en même temps souple et résistant. Hein. Alors c'est-à-dire qu'une pression du doigt laisse un léger creux sur le foie, mais après ça prend sa forme initiale, vous savez, comme les matelas mémoire de forme, les trucs comme ça. En quelques secondes, il faut qu'il reprenne sa forme. Et puis il faut choisir des foies pas trop gros. Si vous prenez des foies trop gros, c'est que c'est des bêtes qui ont été surgavées. Donc c'est pas sympa pour la bête déjà. Et puis
alors
surtout,
quand vous dites pas trop gros en termes de poids, ça donne
alors,
quoi, Manu ?
Pour le canard, 400-500 grammes max. Hein, et pour l'oie, 500-600 grammes max. Je parle pour des foies gras, donc des bêtes qui ont été gavées ou qui se sont gavées elles-mêmes dans le cas de des oies qu'achètent que vendent des jumeaux. Voilà, donc 400-500 grammes pour le canard et 500-600 grammes pour l'oie.
Vous, Karim, vous avez des foies qui font quel poids à peu près ?
Entre 350 grammes et 500 grammes. Et c'est du foie d'oie. Hein.
Oui, parce mais que c'est logique parce que là ils sont pas gavés mécaniquement.
Voilà, c'est ça.
C'est les oies qui se gavent elles-mêmes. Donc c'est un gavage naturel.
Voilà. Alors faut expliquer pourquoi elles se gavent elles-mêmes.
En fait, c'est des oies migratoires tout simplement. Elles migrent en Afrique du Sud. Et donc là où on est dans le sud-ouest de l'Espagne, à 100 km du Portugal et à 100 km de Séville. Et en fait, c'est une autoroute, la A6 migratoire. Donc c'est une route migratoire qui existe depuis la nuit des temps. D'ailleurs, on a trouvé des traces d'une ancienne sèche, une cave de sèche justement qui date de l'Empire romain, qui a été ils l'ont analysé au carbone 14, qui date de plus de 2000 ans. Du coup, en fait, l'élevage avec qui on travaille, avec Don Eduardo, existe depuis la nuit des temps.
D'accord. Et donc les oies d'elles-mêmes, donc c'est leur étape autoroute en fait, c'est
en
ça.
En fait, dès qu'il commence à faire froid, elles vont automatiquement commencer à s'auto-gaver d'elles-mêmes, donc manger des grosses quantités d'herbes, de glands, et de temps en temps, Eduardo va leur donner un petit peu de maïs sans OGM, bio, etc. Et ensuite, dès qu'elles sont prêtes, elles vont commencer leur migration de plus de 5000 km en Afrique du Sud.
Mais comment elles s'arrêtent à la ferme?
Alors, ça fait des siècles qu'ils font ça en fait. C'est naturel. Il y a des années où elles vont s'arrêter ailleurs.
C'est l'ère d'auto.
C'est total. C'est super intéressant.
Non, mais c'est intéressant. Mais je sais que Eduardo, il m'a montré en fait, parce que j'étais avec lui toute la semaine là, il m'a montré qu'en fait, ils mettent des puces GPS dans leur dans quelques oies et ils savent où elles sont. Et il y a des années où elles vont au nord du Maroc. Elles s'arrêtent en Italie. Il y a des années où vont pas revenir du tout. Mais en général, on a à peu près 2000 oies par an qui sont dans la ferme.
Ouais.
Et Eduardo, il sacrifie maximum 1000 oies. On ne peut pas faire plus, sinon on ne respecte pas l'écosystème.
C'est ce qui veut dire qu'en fait, le foie gras que vous faites, il n'est pas issu d'oies d'élevage, mais ce sont des oies sauvages qui se posent là, comme je disais, sur une aire d'autoroute, parce que c'est là qu'elles ont l'habitude de s'arrêter quand elles se plantent pas et qu'elles vont pas ailleurs. Mm-hmm. Hein, quand elles ont pas de problème de GPS, elles s'arrêtent là. Et du coup, ces oies, elles sont en train de migrer, donc sauvages, elles se posent là. Sauf que certaines vont pas repartir puisqu'elles vont finir
sur l'étal des jumeaux. Notable. Voilà, c'est ça.
Et alors, il faut savoir que les oies ont des fiancés.
Elles restent ensemble tout le temps.
Et qu'elles sont monogames.
Ça, c'est intéressant. On devrait tous être comme ça, non ? Non ? Bon, en tout cas,
je vous explique. C'est pas le sujet aujourd'hui.
c'est une autre émission qui arrive.
C'est vrai que c'est
dédicace à ma femme.
Mais si vous voulez parler du couple, on a un spécialiste avec nous, Patrick Soulaï.
Il fait pas encore les oies.
Il fait pas les oies, Patrick.
Je parle pas très bien l'espagnol non plus. Donc,
je sais pas si vous nous avez compris. En fait, les oies, elles restent entre elles. S'il y a une oie qui décède, le mâle, il décède, la femelle va pas se remettre avec une autre oie. Et du coup, c'est vraiment
elle va porter un petit brassard noir,
c'est ça, en deuil à vie,
c'est ça.
Et nous, on récupère les jeunes.
C'est ce qu'on
oies.
Appelle le foie gras truffé après, avec le petit truc noir.
On récupère uniquement les oies qu'ils ont un an.
D'accord.
Voilà, pour pas toucher aux parents justement. Et il y aura toujours des oies dans la ferme parce que des fois elles font des accidents, elles ont une aile qui est cassée ou elles sont un petit peu âgées, elles vont toujours rester.
Elles peuvent pas entreprendre le voyage en fait.
Non. Mmh. Et il faut savoir autre chose, c'est que la race qui est utilisée dans cet élevage-là si particulier, c'est pas l'oie qu'on utilise pour le gavage.
Oui, c'est l'oie sauvage.
C'est des oies sauvages, ça s'appelle l'oie d'Andalousie. En fait, voilà.
C'est l'oie que chantait Michel Delpech.
C'est bien.
Merci Manu. Un peu de culture musicale.
Ah, mais Manu, là, vraiment, vous, vous enchaînez. Ce qui fait, est-ce que le goût de ce foie gras, finalement, est très différent que les oies qu'on gave, on va dire, dans le sud-ouest?
Alors, il va être mieux, plus prononcé, grâce justement à la bellotin.
La bellota, c'est l'alimentation. Hein,
C'est ça. En fait, la bellota, c'est le gland.
Le gland qui vient.
Et on l'utilise surtout sur les élevages ibériques, là. Et c'est vachement intéressant. Eduardo m'expliquait cette semaine qu'il a trouvé des éleveurs qui font. Il y a des oies, en fait, des routes migratoires au Danemark. Il y en a aussi au Canada. Et par exemple, celle qui m'avait expliqué, il communique avec un éleveur là-bas, il m'y expliquait que le foie gras qui est là-bas, le foie d'oie là-bas, naturel, il a un goût de sardine, en fait, de poisson. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il va manger, ça vient de la mer. Du coup, il va avoir un mauvais goût. Et nous, juste, on est dans une ferme. Dans
les terres.
Dans les terres, il y a rien. Hein.
Elles ont eu le temps de digérer les sardines dans un quand elles arrivent chez Eduardo.
En fait, on va retrouver ce qu'elles vont manger durant l'année. Voilà.
Ok, donc gland et figues. Et maïs.
Gland.
Et olives.
Non, il n'y a pas de figues. Si, il y a des figues, mais en mois d'août. Mais on ne va peut-être pas le ressentir. En fait, il y a des figues vertes qui poussent, je crois, 3 semaines par an. Ensuite, on a beaucoup d'olives et justement les glands.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que pour ne pas stresser les animaux au moment de l'abattage, c'est qu'il les rassemble en pleine nuit.
Il les rassemble en pleine nuit, parce que les volailles, alors que ce n'est pas que les oies, c'est les poulets, c'est voilà, les canards, les animaux, toutes les oies. Hein, voilà. Toutes les volailles, on les récupère à la nuit, justement, pour elles se rendent compte de rien, en fait. Donc on les récupère et on les ramène à l'abattoir qui est juste à côté et on les sacrifie au lever du jour, en fait, hein, vers 5h du matin, 6h du matin, et on peut pas tuer plus de 100 oies. Parce que l'abattoir est tout petit, c'est vraiment un truc artisanal. Hein. Donc, il y a mes sacrificateurs qui y vont. On n'utilise pas d'électronarthrose. De toute façon, nous, on est contre et on n'a jamais utilisé ça. Et du coup, on fait pas plus de 100 oies pour chaque journée.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, du foie gras, la demande dépasse l'offre aujourd'hui. Vous avez déjà récupéré le foie gras de la saison, Karim ?
Ah oui, moi, ça y est, j'ai tout bloqué avec mon éleveur là cette semaine. Et après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on représente 80% de son chiffre d'affaires. Et je pense, d'ici quelques années, je pense qu'on sera à 90-95%. Parce que, on cartonne, parce que les gens, ils veulent un foie gras éthique. Ils veulent un foie gras qui soit bon. Et nous, on a vraiment le produit qui fait. Après, c'est très, très cher. D'accord? Il faut savoir que sur des 1000 oies, mon éleveur, il doit payer 3 salariés. Il doit payer aussi pas mal de choses parce que, en fait, il fait la chasse aux renards. C'est vraiment un protocole. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et du coup, c'est un produit qui est très, très cher. Et on est à 130 euros le pot de 125 grammes. Ce qui représente plus de 1000 euros le kilo, en fait. Et c'est super cher. On a des clients, ils viennent, oh, vous êtes des voleurs, tout ça. Ils savent pas, ils comprennent pas que et nous, on met un an.
La Patrick dit, heureusement que je n'aime pas le foie gras.
C'est un an de travail. Pour avoir du foie d'oie naturel comme ça, c'est un an de travail. Le foie gras gavé, c'est 3 semaines. Par contre, faut faire attention, aujourd'hui, en France, le foie gras français, il sera meilleur qu'un foie gras qui vient de la Roumanie ou dans des pays comme la Pologne, etc.
Oui, d'où l'intérêt d'acheter du produit du
oui,
premier choix.
Parce qu'il y a des maîtres gaveurs.
Le tout venant vient de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie.
Et ça, il faut faire attention, en fait. Il faut acheter un foie gras qui vient de France parce que c'est plus éthique qu'un foie gras qui vient de Roumanie et dans des pays comme ça, quoi.
Bien, comme c'est les fêtes avant les fêtes, Manu, tout à l'heure, vous pourrez gagner un cadeau.
Absolument, mais même deux cadeaux, parce qu'on a deux invités, donc c'est déjà Noël, hein, on va dire. Parce que vous allez pouvoir gagner une box foie gras Attendez, j'ai fait des bêtises là. Oui, c'est ça, une box foie gras. Donc décrivez-nous ce qu'il y a, Julien Durand, dans cette box foie gras.
Bah, je vous laisserai choisir vos 5 foie gras. Donc j'ai fait des inserts en veux-tu en voilà. Il y a 8 possibilités. Et j'offre avec un pain tranché de la meilleure boulangerie qui a été élue meilleure baguette récemment dans le Val-de-Marne. Et on met 5 chutneys à disposition, le tout à récupérer sur Alfortville. Donc voilà. 5 mini foie gras de 70 à 80 grammes au choix. mon pain tranché et les cinq petits chutneys qui vont avec.
Voilà. Et une box ne venant jamais seule, il y aura ce sera un deuxième jeu concours.
Maître Boily va travailler deux fois.
La semaine prochaine, oui, ouais. Pour le tirage au sort. Et donc, il y a une deuxième box, donc c'est une box les jumeaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la box les jumeaux, Karim ?
Alors, il y a 50 pots de foie gras. Non, je rigole. Il y aura pas de quand même.
Celui à 2000 boules.
Quand même, ouais, c'est ça. Ce sera une petite box les jumeaux avec plusieurs échantillons de ce qu'on propose, parce que nous on fait tout maison. Donc il y aura du boudin blanc, il y aura des milanaises, il y aura des nuggets, il y aura des kaftas, il y aura pas mal de choses. Ça va permettre de faire découvrir ce qu'on fait.
C'est un petit catalogue vivant des produits
avec
des
conseils de cuisson et voilà quoi.
Voilà.
C'est nombreux à gagner.
Et donc ça, ce sera à partir de 13h30 précisément sur mon Instagram, Mariani, Mariani.manuel, Manuel. Et donc vous aurez deux jeux concours différents, vous avez le droit de participer aux deux.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Voilà, on parle de foie gras et halal aujourd'hui avec nos invités Manu.
Absolument, nous sommes avec Karim de la boucherie Les Jumeaux au Lida et avec Julien Durand alias Maître Foie Gras, chef à domicile à Alfortville, ça rime. Et puis
vous êtes sur le marché demain, non, Julien?
Ouais, c'est mes grands débuts. Ouais.
Marché d'Alfortville, donc à quel endroit?
Dans la rue principale, PVC, Paul Vrain Couturier. Vous allez me retrouver avec mon ami Samir qui m'a gentiment cédé un mètre de son emplacement.
Bah, un mètre de foie gras, c'est pas mal. Ça en fait du foie gras.
On va vous présenter, on va vous faire déguster, on va vous faire donc découvrir ce que je fais.
Mmh. Okay. Ah, donc demain, marché d'Alfortville.
Tous les dimanches, la période.
La période hivernale, jusqu'aux fêtes.
Quels sont les différents types de foie gras, Manu, qu'on trouve sur le marché actuellement?
Alors, il y a trois types de foie gras, que ce soit pour le veau ou le canard. À chaque fois, c'est la même chose. Il y a le foie gras qu'on appelle du foie gras entier. Alors ça, ce qu'on appelle le foie gras entier, c'est une législation. Hein. Le foie gras entier, c'est soit des lobes entiers, soit des morceaux de lobes. Mais enfin, si vous voulez, vous avez deux lobes dans un lobe de foie gras, il y a deux parties. Ces parties doivent être entières. Donc, si c'est cuit comme ça, il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 6 lobes qui sont cuits entiers. S'ils ne sont pas coupés et qui sont entiers, on appelle ça du foie gras entier. Donc, il peut y avoir plusieurs foies dans un foie gras entier. Et donc, ça, c'est cuit. Donc, les lobes sont cuits entiers après avoir été assaisonnés. Ensuite, il y a le foie gras standard, sans spécification. Ça, c'est des petits morceaux de lobe, mais qui doivent faire au moins 30 grammes. Ça, c'est un minimum. Ils doivent faire au moins 30 grammes. Ils sont donc assaisonnés, agglomérés et cuits. Et c'est souvent le foie gras qu'on trouve dit en terrine. Hein. Et souvent, on l'utilise.
Donc, c'est en pot de verre, c'est ça que je veux dire.
En pot de verre ou en terrine, ça peut être du frais. Mais ça, on va le voir après pour la différence entre terrine et mi-cuit. Hein. Mmh. Il y a une différence entre les deux. Et puis ensuite, il y a le bloc. Alors là, c'est le bas de gamme, hein. Le bloc de foie gras, quand on a fait du foie gras entier ou du foie gras tout court, bah, y a des chutes, il y a des petits restes.
Hein. Ouais.
Et tout ça, on récupère, on le mixe avec de l'eau. Hein. Donc gras et eau, ça fait une émulsion comme une mayonnaise. Mmh. Et ça fait une espèce de mousse qu'on appelle le bloc de foie gras. Ça a quand même...
C'est quoi le pourcentage de foie gras qu'il y a dans la mousse à peu près? Est-ce qu'il y a une obligation ou pas?
Ouais, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais disons que déjà rien que le fait de le mixer avec de l'eau, de toute façon le canard il est mort pour rien quoi. Donc le bloc vous oubliez. Il vaut mieux acheter un tout petit morceau de foie gras qu'acheter un kilo de bloc. Surtout qu'en plus.
Alors quand on voit bloc de foie gras, donc c'est dans les appellations souvent dans les supermarchés, c'est ce qu'on
vous
voit.
Vous achetez de la flotte.
On va éviter. Ouais.
C'est les chutes en fait.
C'est bourré d'additifs, bourré d'édulcorants, bourré de sel nitrique.
C'est les chutes. Donc il y a aussi tous les veinages, hein, toutes les veines et tout qui ont été enlevées. Comme il reste un petit peu de foie dessus, on mixe ça avec. Voilà, évitez le bloc. Faites-moi plaisir, mangez soit du foie gras entier, soit du foie gras en terrine, mais évitez le bloc. Voilà.
Vous le vendez sous quelle forme, vous, Karim?
Alors nous, on le vend, c'est du foie gras, c'est du foie d'oie mi-cuit, entier. Donc c'est le meilleur, en fait. Mm. Et c'est un bocal en verre qui fait 125 grammes, précisément.
Donc pasteurisé. Mm. Ok. Voilà, oui, parce qu'il y a aussi... en fait, il y a celui qui est en terrine, donc il se conserve plus longtemps, parce qu'il est pasteurisé. Donc, vous pouvez le faire mi-cuit, c'est-à-dire que, enfin, vous êtes quand même obligé de le cuire à un certain, à une certaine température, à un moment ou à un autre, et pendant une certaine durée pour qu'il soit pasteurisé. Et donc là, c'est ce qu'on appelle de la conserve. Donc là, il se garde un peu plus longtemps. Et sinon, après, il y a le mi-cuit, parce que quand on appelle, légalement parlant, quand on parle vraiment de mi-cuit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été pasteurisé du tout.
Ça, pasteurisation, ouais. C'est à 65 degrés. Voilà. C'est idéal pour les femmes enceintes. 65.
Ouais. Moi, ça tue les germes, les bactéries, etc. Et donc mi-cuit, là on a un foie gras qui reste légèrement rosé, alors pas saignant, hein, c'est pas sanguinolent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les choses un peu saignantes ou sanguinantes, c'est pas sanguinolent du tout, mais il va avoir une couleur un peu plus rosée et il sera un peu plus, il aura une texture un petit peu plus moelleuse à l'intérieur.
Vous, Julien, vous le vendez sous quelle forme, le foie gras?
Sous vide, et je le cuis à 63 degrés, donc.
Donc mi-cuit, basse température.
C'est une basse température à 63 degrés, donc sous vide avec un thermoplongeur. C'est la technique que j'ai appris dans les restaurants gastronomiques que j'ai pu faire. Et je le conseille pour les femmes enceintes, c'est 65 degrés la pasteurisation. À partir de ce degré-là, c'est pasteurisé, une femme enceinte pourrait en consommer. Donc il est sous vide, j'ai une DLC de 21 jours dessus. On peut monter à 21 jours là-dessus, on peut les congeler si on veut les congeler, puisqu'ils sont frais. On peut le ressortir l'année prochaine, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on a une semaine de date limite de consommation après ouverture du sachet.
Et vous, Karim?
Nous, on a un an de DLC.
D'accord.
Non, voilà.
Bien. En parlant de fêtes de fin d'année, Patrick, vous organisez un réveillon?
Oui, j'organise un réveillon le 31. Le 31, en fait, comme vous le savez, hein, je suis des personnes depuis quelques mois, quelques années maintenant. Et on a été confinés pendant presque 2 ans maintenant, on peut dire ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi les gens par Zoom ou sur Insta. Après, on a eu la chance de faire des séminaires. Mais en fait, tout le monde ne se voit pas, en fait. Donc, l'idée, ça a été de faire le 31, c'est dans l'idée de finir l'année ensemble, finir cette période ensemble. Et commencer une nouvelle période ensemble également. Du coup, je me suis dit, venez, on fait la fête le 31. Quoi.
Et c'est quoi la thématique?
Les années 90. Tu dois être habillé comme dans les années 90.
Bah, comme nous, Philippe. Hein.
Bah, nous, on n'a pas connu les années 90. Et ça veut dire qu'il va y avoir
Dans les années 90, on avait déjà Alzheimer, donc on se souvient.
Il y aura de la musique des années 90.
Exactement, il y aura de la musique des années 90. Les années 90, j'ai choisi cette période parce qu'en fait, dans cette période-là, être différent, c'était bien. Oser faire des choses différentes, c'était bien. Alors que maintenant, tu dois être comme les autres, tu dois avoir des likes, tu dois faire comme les mêmes posts que les autres. Alors que dans ces années-là, la différence, c'était cool.
Bon, on mange aussi dans votre rayon. On mange, on danse, c'est ça.
Du coup, je vais demander à ce qu'on voit pour le foie gras. Je vais parler avec
Karim qui danse très très bien, je pense.
La Macarena surtout.
90, on est bien.
Ouais. On est dans le thème thématique. Et on mettrait une perruque.
Comment on s'inscrit, Patrick?
sur ma page Insta ou sur ma chaîne YouTube et également sur mon site.
Bien, Manu, autre idée de réveillon, parce que c'est le moment aussi. Hein.
Absolument, parce que comme on parle du foie gras, du coup, je vous ai sélectionné un réveillon du nouvel an, hein, pour le 31 décembre au soir, dans un restaurant gastronomique halal, qui fait un menu tout foie gras, alors sauf le dessert. Hein, mais vous avez du foie gras dans l'entrée, dans le plat. Alors en entrée, par exemple, vous avez un millefeuille de saumon et crabe en deux façons, ou un duo de foie gras poêlé et mi-cuit. Dans les plats, vous avez encore du foie gras, si vous prenez le tourneau de Rossini, mais il y a aussi une ballotine de poulet farci aux champignons sauce mori ou un double filet de bar à la plancha sauce thaï avec des garnitures comme un risotto à la crème de truffe par exemple, et puis des beaux desserts. C'est un très bon restaurant halal que je connais, que j'ai eu l'occasion de tester, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Restaurant gastronomique halal, s'appelle la Galerie Lounge, c'est dans le 14e arrondissement, et donc vous avez le site la galerie avec un Y, lounge comme un lounge bar, .fr. Et donc vous pouvez vous réserver, voilà, c'est un menu gastronomique, c'est 99 €, boissons comprises et animations comprises pour le 31 décembre au soir. Donc
vous connaissez Karim?
Ce restaurant?
Oui.
Non, pas du tout. Mais c'est plus rentable d'y manger que d'acheter un pot de foie d'oie chez moi, quoi.
C'est vrai.
J'aime bien cette façon que vous avez de faire de la publicité pour votre produit, ça, Karine. Ça donne tout de suite envie d'y aller.
Voilà. N'achetez pas de foie gras chez moi, allez manger au Garden Lounge.
Non, mais faut être réaliste, en fait. J'ai des clients qui viennent me voir, des fois, ils me critiquent, mais un truc de fou, je leur dis, mais vous comprenez pas, c'est.
Non, mais la question, c'est pourquoi ils viennent vous voir, du coup.
Non, mais même sur les réseaux, même sur les réseaux.
C'est drôle, parfois.
On essaie d'être drôle, ouais. Mais ça fait partie du prix. Voilà. J'adore. Enfin bref, en tout cas, voilà. Des fois, on a des clients qui nous critiquent. On se demande pourquoi. Moi, je fais du foie d'oie non gavé parce que personnellement, je ne peux pas vendre un foie gras gavé. C'est pas possible pour moi. J'ai trouvé la solution. Je me suis cassé la tête. Vous voulez pas, mais ça sert à rien de me critiquer, quoi. Voilà. C'est tout.
On réglera ça après l'émission, Karim. Julien, vous serez donc sur le marché demain.
Ouais, on rappelle. Marché demain dimanche sur Alfortville, en effet. Et moi, je fais du foie gras de canard, non gavé également et non maltraité aussi, hein, et français.
Et vous pourrez le goûter.
Manu. Voilà. Un petit tirage au sort, Philippe.
Non.
Hein, vite
non,
fait.
On tira hors antenne et puis on mettra la réponse sur vos réseaux sociaux.
Ah d'accord.
Sauf si Maître Boily me donne une minute de plus. Oui, en 1:17, Manu.
Allez, 1:17. Alors, on va demander à Patrick Soulaï de lancer la roue pour une fois.
Ok.
Hein, on va laisser notre huissier de justesse, Maître Bouali, de côté aujourd'hui.
Okay.
Donc c'est Maître Soulaï qui lance la roue. Allez-y, Maître Soulaï.
Top. Ouais, moi je suis rapide.
Voilà. Alors, le gagnant est une gagnante, je présume, puisque son profil Instagram c'est aline.aline.3. Donc oui. Aline, félicitations. Et puis on va rappeler juste les réseaux sociaux de nos invités quand même. Donc Julien Durand, Maître Foie Gras, c'est Durand Julien 94.
Oui.
Et puis Karim Loumi, la boucherie des jumeaux, c'est boucherie jumeaux au pluriel sur Instagram.
Marquez juste boucherie des jumeaux.
Voilà. Et puis n'oubliez pas, hein, à partir de 13h30.
Sur TikTok aussi, c'est là où il donne le meilleur de lui-même sur TikTok.
Voilà. On danse et tout, ouais, c'est
pas mal. Et très, très, très rapidement, n'oubliez pas que vous pouvez jouer donc à partir de 13h30 sur mon Instagram, mariani.manuel. Et cette fois-ci, il y a deux jeux concours. Vous pouvez gagner du foie gras, une box de foie gras de chez Julien Durand et une box Les Jumeaux avec un assortiment de produits Les Jumeaux.
Bon, allez, passez un bon week-end sur Beurre FM.
Bah.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.